Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 1 de Québec quoi. Nous sommes vos deux animateurs, Gabriel Robichaud et...
Charles Lefebvre.
Bonjour Charles.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui des événements récents. On a décidé de concentrer notre premier épisode autour du thème du racisme parce qu'il s'est passé des événements cette semaine qui est comme... c'est comme incontournable, je trouve. Difficile à passer à côté.
Oui, surtout à l'occasion des festivités de la fête nationale, ça a été tapissé mur à mur sur les médias sociaux et dans les chaînes de nouvelles en continu.
Fait que là, Charles, il fait référence à l'incident qui est arrivé à la parade la parade organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste le 24 de juin, où il y a une vidéo qui est parue sur Internet, vous l'avez sûrement vue, où il y a un char allégorique qui est poussé par 4 personnes de race noire. Et évidemment, tout le monde a fait un lien direct au passé esclavagiste aux États-Unis et partout avec les Noirs. Sans vraiment trop mettre le contexte, les médias se sont emparés de ça. Écoute, la parade n'était pas finie, qu'il y avait déjà des articles sur Internet. C'était assez spectaculaire. T'en fais quoi, Charles, de ça?
Ben, dans un premier temps, ce qui m'a émerveillé, c'était la rapidité avec laquelle ça s'est propagé. Bien au-delà des frontières du Québec, ça s'est ramassé sur Twitter, sur des sites de partage de nouvelles à l'aide nationale. C'était très, très rapide.
Écoute, même la BBC. La BBC. Écoute, moi j'allais voir, quand j'ai vu l'article passer sur la BBC, je n'ai pas été capable de m'empêcher. Souvent, ce que j'aime de faire, c'est d'aller voir dans les commentaires, parce que je trouve que ça, c'est toujours amusant.
Les commentaires, là.
L'Internet, c'est surtout ça, c'est des commentaires. Fait que je suis allé voir, parce que je voulais voir c'était quoi la perspective. C'est contrasté avec les commentaires qu'on verrait, par exemple, sur le Journal de Montréal. À ma très grande surprise, c'était assez polarisé vers la gauche. C'était des commentaires de « j'en viens pas, comment on est raciste, comment ils peuvent faire ça ». La BBC n'a pas fait une très belle job sur mettre en contexte le reportage, puis je trouve ça déplorable, parce que c'est quand même sorti une couple de jours après. Mais au Québec, j'ai l'impression que l'histoire n'a jamais été expliquée.
Mais je pense qu'elle a été expliquée, mais de façon très fragmentaire.
Ouais.
Si bien qu'une personne pouvait éventuellement avoir un portrait global de la question, mais devait s'approvisionner auprès de nombreuses sources différentes sur plusieurs jours.
Oui.
Et malheureusement, avec le caractère instantané d'une nouvelle, c'est qu'une fois qu'une nouvelle est partie dans le monde, on ne peut plus récupérer la balle. Alors, si, par exemple, une nouvelle est récupérée trop vite par les médias et mal contextualisée, on garoche dans l'univers des propos qui sont pas seulement infondés, mais qui sont, du moins, qui mériteraient d'être contextualisés pour apporter les nuances appropriées, ben, c'est très difficile à récupérer ensuite.
Ouais.
On a vu ça régulièrement où les médias, par exemple, se sont trompés sur une question, ont émis un correctif, mais le mal était déjà fait.
Il n'y a personne qui lit le correctif.
Oui, effectivement.
Moi quand la nouvelle est apparue, moi, je l'ai vue sur le site de la presse. Fait que je m'en vais voir, je vois la photo, puis là je me dis « Oh my God! » Tu vois la photo, tu vois effectivement, tu vois 4 noirs en train de pousser une blanche sur un char allégorique, puis derrière une masse de blancs qui sourit, puis qui danse, puis qui ont bien du fun, puis les pauvres noirs sont là, ils sont assis au soleil. C'est l'image en soi, là, je comprends pourquoi qu'elle choque, parce qu'elle est ridicule. Quand tu vois une image comme ça arrêtée, c'est pas toujours la même chose que quand t'es dans la situation. Fait que j'ouvre l'article, puis il y a rien, il y a pas d'info. C'est genre une vidéo sur Internet fait réagir les internautes. C'est ça l'histoire de la presse. Puis là, c'est dans ces moments-là que la vidéo va prendre l'ampleur. Allez partager sur Twitter, allez partager sur Facebook. Le monde capote. Ils se mettent à écrire des commentaires. J'en viens pas, le Québec c'est raciste, Montréal, ils nous aiment pas. Ça, écoute, il y en avait des commentaires. On va pas aller trop profondément là-dedans. Là. Mais les gens, une fois qu'ils ont vu la photo, qu'ils ont ouvert l'article, ils vont pas revenir mardi checker c'est quoi la pleine histoire. Moi, j'ai pas les gens comme moi, puis toi, Charles, là, qui sont assez pétés pour lire 6 articles sur la parade, puis retourner le lundi, puis retourner le mardi, puis mercredi encore, on en parle. Je pense pas que c'est la majorité du monde. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mettons le journaliste de la presse qui a fait ça, puis là, je me souviens plus de son nom. Là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent pour contextualiser?
Bien, je pense que, à la base, on n'a pas le bon réflexe. Collectivement, quand on voit une nouvelle, notre premier instinct, c'est d'y réagir vigoureusement et de mettre tout le poids moral qu'on peut. Je pense que les gens, maintenant, c'est devenu presque une nécessité sur les médias sociaux que de se positionner avantageusement sur le plan des valeurs ou de la moralité. Alors là, on fait une affirmation vertueuse, on récolte le fruit social de ce positionnement-là. Hein, en anglais, il y a une belle expression, hein, « virtue signaling ». C'est exactement ça. Les gens se positionnent comme des chevaliers de la vertu. Et ensuite, on passe à autre chose. On va être offensé par une autre chose. On va avoir une autre opportunité de s'offenser. Et au final, on n'a pas creusé la question. Alors, je pense que le premier réflexe, c'est pas de réagir, c'est de se questionner.
Mais c'est parce que Facebook nous le rend très facile. Ils veulent qu'on réagisse.
Oui, ils font de l'argent avec ça.
Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis des petites faces enragées là, sur Facebook. Non seulement je peux cliquer, mais je peux montrer à quel point je suis indigné par cette photo. Regardez mon petit visage enragé. C'est...
Oui, c'est sûr qu'il y a tout un système complexe de validation sociale qui s'articule autour de la réaction aux articles.
Ouais.
Et Facebook fait de l'argent sur le volume d'attention qu'il y a sur une nouvelle, parce qu'on va y associer des publicités.
Ouais.
Même chose pour les quotidiens. Puis en fait, je pense que c'est un des problèmes. Le réflexe de se poser la bonne question plutôt que de réagir, c'est contre-intuitif par rapport aux objectifs financiers des médias. On compare. Il y a 10 ans, j'ai les chiffres pour les États-Unis, mais on peut imaginer une situation analogue avec le Canada.
On est tellement étroitement liés.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut faire un parallèle sans trop se tromper. En 2005, les revenus des grands médias aux États-Unis étaient autour de 46 milliards. 10 ans plus tard, ils étaient autour de 10-12 milliards. Donc, c'est une chute impressionnante dans leurs revenus. Puis, les ventes en ligne, les revenus publicitaires n'ont pas compensé cette diminution-là. Donc, les quotidiens, les journaux, les chaînes de nouvelles sont vraiment dans leur dernier retranchement en ce qui a trait à leur flux de trésorerie. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour compétitionner, mais il y a tellement de sources d'informations différentes.
Ils capotent, là. Le Toronto Star, ils viennent de fermer leur division, leur application, ça se pense, ça s'appelait StarTouch. Ils ont essayé de faire un virage numérique pour essayer de combattre justement ce problème-là. Puis, écoute, ils n'ont pas été capables.
Et même la presse, on n'a pas les états financiers de la Presse Plus. Power Corporation les mélange à leurs ensembles des activités, mais on n'a pas de façon isolée la Presse Plus. Moi, je pense que c'est déficitaire.
Est-ce qu'on a les numéros d'une idée de l'achalantage ou de la participation?
Là, je m'avance un peu. Je sais, j'ai pas eu l'occasion de voir grand-chose circuler là-dessus, mais j'imagine que ça avait été un franc succès. On en aurait parlé plus. Et surtout, les autres journaux auraient suivi. Alors, on remarque le Devoir, le Journal de Montréal, sont restants en format papier.
Mais tu sais, c'est très difficile de faire le virage numérique pour les salles de presse à travers l'Amérique du Nord, pas juste au Canada. Ils ont beaucoup de difficultés. On l'a vu, Toronto, ils n'ont pas été capables.
Mais peut-être que les médias francophones ont un avantage en ce sens que le public québécois qui veut des nouvelles en français est un peu plus captif.
Oui,
on regarde, on a un exemple qui n'est pas dans le journalisme, mais qui est dans la culture. Il y a des services de vidéo sur demande dans le Canada anglais qui ont fermé. Parce qu'il n'y avait pas assez d'abonnés. Alors que,
oui, c'est vrai.
Alors que le Club Illico de Vidéotron, lui, demeure actif.
Oui. Mais,
on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas si c'est dans quelle mesure c'est
encore. Il y a une légère différence. Le fait francophone donne un avantage un peu à Vidéotron de ce côté-là, j'ai l'impression. Parce que dans le Canada anglais, Crave TV, puis l'autre qui a fermé, là, que je ne me souviens plus de son nom.
Moi, c'est celui de Rogers.
Celui-là de Rogers. il compétitionne avec Netflix.
Oui.
Il compétitionne. Puis honnêtement, moi, je suis un abonné de Netflix depuis les premiers jours que ça a été disponible au Canada. Je vois pas l'intérêt de m'abonner à les trucs de Rogers. Quant à Netflix, l'offre est nettement meilleure.
Mais, l'offre francophone du Club Lico correspond plus peut-être à ce que des gens qui veulent du contenu francophone recherchent. De la même façon que peut-être que la Presse Plus a l'avantage de servir un public francophone.
Absolument.
Alors que dans le reste du Canada, ils sont en compétition avec non seulement les quotidiens canadiens, mais américains, britanniques et de n'importe où ils mettent dans le monde.
La Presse Plus peut fonctionner dépendamment de comment ils ont construit leur modèle d'affaires et comment ils divisent leurs revenus. Peut-être qu'à l'interne, une fois que c'est tout calculé ensemble, que Ça peut fonctionner, parce que j'imagine leurs journalistes, c'est les mêmes articles sur la...
Moi, tant que j'ai pas vu les états financiers, je demeure sceptique.
ça, c'est ton petit côté comptable.
Ouais, c'est mon petit côté bas brun.
tu continues comme ça, là, je vais voir ta calculatrice qui dépasse.
Mais pour en revenir à la question du journaliste, c'est qu'en ce moment, le modèle d'affaires fait en sorte que il y a un réel incitatif financier à être les premiers sur une nouvelle. Ils vont tout faire pour avoir une exclusivité, pour être les premiers, parce que ça va diriger tout le trafic vers eux. Et pendant quelques minutes, peut-être même quelques heures, là, s'ils sont très rapides, ils vont ramasser beaucoup de visibilité.
Puis le problème, c'est que ces clics-là génèrent pas des revenus à la même valeur, mettons, que si il se faisait une pub à la télévision. C'est, si tu fais une émission de nouvelles, ben, ta pub à la télévision, ton revenu il est clair, tu sais comment que t'en as, parce que tu vas charger X pour tes commanditaires. Mais tandis que payer pour des clics, là, ça en prend des clics pour faire de l'argent. Ça se vend pas cher, des clics. Le système est fait de sorte que il faut qu'ils réagissent premier. Il faut qu'ils soient les premiers arrivés parce que ça leur prend les clics. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils sont à la recherche de ces articles-là qui vont faire jaser. Parce qu'ils veulent que tu sois indigné. Ils veulent que tu cliques sur la petite face enragée puis que tu le montres à tous tes amis à quel point c'est ridicule.
Ils vont pas hésiter à mettre un titre tendancieux, voire même un peu déformé de la réalité pour susciter des réactions. Puis dans le cas de ce qui est arrivé à la fête nationale, ben c'est un exemple parfait où on n'a mis aucun contexte, aucune nuance, on n'a pas cherché de réponse, on a cherché une émotion, d'abord et avant.
Ouais, clairement, on a cherché une émotion. Puis, c'est moi, ce que je trouve dommage dans cette quête d'émotion-là, c'est qu'on utilise des enjeux de société qui ont un impact. Ça a un impact sur les gens. Moi, quand ça s'est produit, j'ai remarqué parmi mes amis Facebook, j'ai des amis noirs qui ont réagit de façon très extrême. C'est inacceptable. Comment on peut faire ça? J'en viens pas. J'ai honte de Montréal. J'ai honte de ma province. J'ai honte de mon pays. On peut-tu mettre en contexte, s'il te plaît? La Société Saint-Jean-Baptiste, à un moment donné, a décidé, pour des raisons de soucis environnementaux, qui ne permettraient plus les chars allégoriques propulsés par des moteurs à gaz. Ils ont décidé, donc, d'utiliser des humains.
S'il y avait pris des chevaux, il y aurait le monde qui aurait chialé.
Mais c'est clair. On n'en rentre pas dans ce qui se passe dans le vieux port de Montréal, là, parce que ça, c'est une autre affaire qui pourrait me faire cliquer sur la petite face enragée. Fait que... Donc, eux autres, ils ont décidé, on va utiliser des humains, personne ne pourra chialer. Et ben surprise! Cette année, ils ont demandé à l'école Louis-Joseph Papineau, de quartier de Saint-Michel, l'arrondissement de Saint-Michel, exactement. Puis ils ont demandé à l'équipe de football de venir donner un coup de main. Ces gars-là étaient, de ce que le coach lui-même de l'équipe de football a dit, les gars étaient super contents de participer.
Encore là, moi je les ai pas entendus, ces jeunes-là. J'aurais aimé ça qu'il y ait... Ben, du moins, peut-être qu'ils n'ont aucune obligation de se manifester, mais j'aurais aimé ça avoir leur point de
vue. Moi, j'ai vu sur Facebook, à un moment donné, je suis tombé sur un commentaire d'un jeune qui disait qu'il était de cette école-là, puis qu'il était sur l'équipe de football. Je regrette de ne pas l'avoir pris en saisie d'écran. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que c'était exagéré. Là, gros, là, je paraphrase ses propos, là. Mais eux, ils voyaient pas ça comme un problème. En plus, dans le fond, puis là, il y a des gens qui sont grimpés dans les rideaux parce qu'ils disaient, mais c'est de l'abus des enfants, puis qu'est-ce qu'ils font là? Hey, c'est des joueurs de football, OK, là? Ils sont. Ils poussés un petit chariot, là, ils sont capables. OK, ils font. Pour eux autres, c'était comme une forme d'entraînement. Et en plus, ils se relayaient. Ils n'ont pas poussé le chariot là, tout le long de la Sainte-Catherine jusqu'au du Saint-Denis, jusqu'à, d'un bout à l'autre. Ils se sont relevés. Il y avait de l'accès à l'eau. Il y avait une équipe qui les encadrait.
Ça, c'est le danger d'un clip de 15 secondes.
Hein? C'est le danger d'un clip de 15 secondes où tout ce que tu vois, c'est un gars qui est en train de pousser sur un truc pendant que plein de madames habillées en blanc avec des grands sourires chantent et qui tapent dans les mains. Fait que l'autre côté de ça, puis c'est ce que moi, je suis vraiment mitigé. Je vois le ridicule de ce côté-là. Mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est comment les organisateurs d'une parade qui est probablement une des plus grandes de la province, là, au point de vue de la Saint-Jean-Baptiste, peuvent pas mettre deux puis deux ensemble pour faire quatre, puis réaliser que... Ouais, si on habille quatre noirs en gris puis qu'on les fait pousser un chariot rempli de blanc, ça passera peut-être pas. Là, j'ai de la difficulté à croire là, qu'il n'y a pas une personne dans tout l'organisme, là, dans l'organisation de ça, qui s'est jamais posé la question. Ouais, les noirs dans la parade, ils posent juste les chariots. Je trouve ça... Je comprends pourquoi ça paraît mal. Je comprends l'indignation. Puis j'ai... assez d'amis noirs pour avoir entendu leurs histoires de racisme, leurs histoires de discrimination, puis des choses qui passent toujours à travers aujourd'hui pour comprendre pourquoi ils sont frustrés. Parce que eux ils voient ça, puis ils doivent se dire, encore une fois, check, là, ils essaient de nous passer pour des caves, ou ils nous respectent pas. Fait que c'est pour ça que je comprends que c'est ridicule, mais d'un autre côté, je comprends les gens qui se sentent lésés par la situation.
Mais moi, tu vois, je la comprends pas vraiment, parce que beaucoup, on dirait, se sont appropriés l'histoire des États-Unis, mais au Québec, on n'a pas du tout la même histoire. Il n'y a pas de champ de coton ici, là. On n'a pas eu une ségrégation de la même ampleur que ce qu'il y avait aux États-Unis. En fait, ouais. beaucoup de Noirs aux États-Unis fuyaient aux États-Unis et venaient se réfugier au Canada.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai.
Il y avait des réseaux d'entraide pour les faire passer les frontières. Oui. Puis c'est une belle histoire, au fond. Hein?
Mais je pense que c'est faux de croire qu'il n'y a pas de racisme ou qu'il n'y a pas de discrimination.
Je pense pas que personne puisse raisonnablement faire le case qu'il n'y a pas de racisme ou de discrimination. Ça existe, mais c'est une chose de dire qu'il existe des individus racistes et une autre de dire que la société dans son ensemble est grévée par un racisme systémique. Parce que c'est ce qui était suggéré aujourd'hui et au courant de la dernière semaine par de nombreux intervenants dans les médias. C'est une affirmation qui va loin et qui, malheureusement, nous engage collectivement un peu contre notre gré. Parce que c'est un débat qui nous a été garoché en pleine figure par les médias, qui a été mal amorcé. La seule façon de bien réfléchir, c'est de bien définir ces termes, bien définir la portée de ces mots-là. La qualité d'une réflexion peut juste être aussi bonne que la qualité du langage qu'on utilise. Puis juste le fait qu'on utilise racisme et discrimination de façon quasi interchangeable, moi, c'est un point qui me dérange. Le racisme, c'est un phénomène intérieur de préférence des individus. La discrimination, c'est la façon dont ça se manifeste dans le monde. C'est deux, un dans l'action... Un autre est un phénomène psychologique interne. Une personne peut être raciste et sans faire de discrimination et vice-versa. Les deux ne sont pas interchangeables. Et dans les médias, on les positionnait comme une et même chose et que cet événement isolé-là était représentatif de l'ensemble de la société. Je trouvais que le raccourci idéologique était dangereux, voire même mensonger.
On a tendance à sous-estimer l'effet que ça fait quand toi, une personne de race noire, vis ces choses-là au quotidien. Je pense que c'est ça qui est difficile à faire, de vraiment comprendre. Je veux dire, OK, Ben, c'est pas évident parce qu'on on est sur un podcast audio, là. Mais tu sais, moi, je suis blanc, je peux pas nécessairement parler pour toutes les noirs, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient les chercher profondément, ce genre de truc-là.
Oui,
puis je peux pas, moi, en tant que blanc, je me trouve que je suis très mal placé pour leur dire « Ah non, t'as pas raison, là, tu devrais pas te sentir... discriminé par X ou Y ou Z, quand c'est leur réalité quotidienne que je pense que je peux même pas comprendre. Mais le problème que j'ai, c'est pas avec le fait qu'on a réagi à l'événement dans la parade, c'est qu'on associe après ça toutes sortes de d'adjectifs à notre société de façon collective. C'est les Québécois, c'est des racistes. Les Québécois, ils sont pas tolérants, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Pour certains que c'est que c'est nécessairement vrai ou pas vrai.
Ben, c'est-à-dire qu'on nous demande souvent de ne pas faire d'amalgame à l'égard de d'autres communautés, mais quand il s'agit de bâcher la culture québécoise ou canadienne, alors là, on peut y aller vraiment autant qu'on veut.
Ah, mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est je le vois en tant que francophone né hors du Québec. Bâcher le Québec au Canada, c'est super le fun. Puis bâcher le Canada au Québec, c'est encore plus le fun.
C'est une rivalité qui est intéressante. Puis en soi, cette bonne guerre, c'est pas grave. Il y a personne qui sort de là avec des échymoses. En fait, ça engage un dialogue, autrement, on se parlerait pas. Parce qu'à travers nos mésaventures interpersonnelles, ouais, on se parle. Puis ça, c'est déjà beau. Parce qu'on pourrait vivre dans le déni mutuel, mais à la place, on essaie de développer quelque chose. Puis à bien des égards, on en parlait dans... on en parlait par le passé, dans le cas de Montréal. La ville s'est développée par l'interdépendance des communautés francophones et anglophones. Les deux ont grandi ensemble.
Ah oui, mais les quatre communautés fondatrices de Montréal... Là-dedans, il y avait des anglophones.
Ouais, c'est le drapeau de Montréal, ça, d'ailleurs.
C'est le drapeau de Montréal.
On n'en parle pas beaucoup,
mais... On reconnaît très symboliquement dans le drapeau de la ville, les communautés anglophones étaient parmi les fondateurs de la ville. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas y penser, je pense.
Mais je comprends ce que tu dis par rapport à tes amis qui sentent mal par rapport à cette situation-là. Puis je suis de là-bas. Une personne qui est raciste, à mon avis, c'est sans doute une des pires attributs qu'on peut donner à une personne. C'est sans doute ce qui est le plus répréhensible que de réduire une personne à son bagage génétique. Ouais. Plutôt que le contenu de sa personne, de ses valeurs, de son identité. Alors, moi, je suis contre les gens qui sont racistes. Montre-moi-les, je vais les manifester avec toi dans la rue. Mais juste garrocher une roche dans le vide en disant « Oh, ouais, à un moment donné, elle va tomber quelque part », on court le risque de pogner une vieille dame qui passe par là.
Le problème, par contre, c'est que c'était cet événement-là, probablement avec de l'argent qui est venu de notre préférée, Mélanie Joly, est organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste. Ils sont pas connus pour être les plus tolérants du Québec. C'est là que je me suis posé la question à me dire, ouais, si ça avait été un autre groupe qui organisait, ça aurait été mieux, mais je suis pas certain. En Ontario, la semaine dernière, il y a eu une madame qui s'est présentée dans une clinique au Mississauga, qui était en banlieue de Toronto. Puis, je vais vous laisser écouter un extrait.
Please see a white doctor. It's only available after 4. If you're not, so you're saying in the whole entire building there isn't one white doctor? Your kid has to be seen by a pediatrician. Okay, so when you're telling me that my kid has chest pains, he's gonna have to sit here until 4 o'clock. Can I see a doctor, please? That's white. But then they have brown teeth, so speaks English.
En tout cas, ça rentre pas avec l'image que notre premier ministre projette à l'international.
Sunny ways, my friends.
Moi j'adore cette vidéo là. Parce que j'ai l'impression là, puis ça c'est pas nouveau. Le Canada, on est tellement drôle. On aime tout ça se présenter comme étant le pays du multiculturalisme. On est donc bien gentils. On est donc bien polis. Puis là, il sort cette vidéo-là. Là, puis moi, ça me fait tellement... Je sais pas, je l'adore. Parce que c'est tout le contraire de l'image qu'on essaye de projeter. Puis moi, ce que j'aime de faire, c'est de lire sur Facebook les commentaires des Américains qui louangent le premier ministre Trudeau comme si c'était le sauveur de la planète et que le messie politique qui nous arrivait de la gauche pour nous sauver. Quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas tout à fait ça là, en ce moment. Il est quand même, en tout cas, moi, je le trouve correct là, comparativement à ce que ça pourrait être. Mais l'image canadienne des gentils qu'on n'a pas de racisme, je suis pas tout à fait d'accord.
C'est-à-dire que je pense que ça fait partie de la nature humaine que de classifier les choses. Et ça inclut les individus. C'est, des raccourcis intellectuels, là, c'est un mécanisme de survie élémentaire. Ça a favorisé la survie de notre espèce. Malheureusement, ça se manifeste dans nos sociétés modernes d'une façon qui est négative, mais en soi, c'est un comportement qui fait partie de la nature humaine.
C'est un résidu, je pense, de l'époque où on devait se rassembler en tribu pour survivre, pour chasser, pour... Tu sais, que t'sais, quelqu'un garde les enfants pendant que la mère s'en va ramasser des bleuets puis que l'autre est dans le champ en train de tuer un animal quelconque. C'est naturel pour nous de se ramasser en tribu. On le fait tout le temps. Au bureau, on se ramasse dans notre département. Puis là, eux autres, on les aime pas parce qu'ils sont pas de notre département. Puis là... Ben moi, je travaille pour compagnie X, mais c'est sûr qu'on est meilleur que compagnie Y. C'est toute une bande de trous de cul, compagnie Y. C'est clair! T'sais, pourtant, qu'est-ce qu'ils ont que nous autres? C'est du monde comme tout le monde. Puis les équipes de sport. Oh, oh! Y a-t-il une équipe de sport qui est meilleure que l'autre? Mais c'est clair, c'est la mienne. Je pense que c'est tellement instinctif, cette affaire-là. Ça vient... De profondément de nous. Puis c'est un exercice intellectuel de vraiment penser à tes émotions, ce que tu ressens, puis de faire le tri entre ce qui est la réalité, ce qui est l'instinct, puis ce qui est ton émotion en bout de ligne.
Ben je dirais même que ça va un peu plus loin que ça. En psychologie, il y a à peu près... selon les écoles de pensée, il y a cinq déterminants de la personnalité. Puis l'un d'eux, c'est l'ouverture. Et cette ouverture-là se manifeste de plusieurs façons très intéressantes. Les gens qui sont très élevés en ouverture vont généralement aimer vivre dans des régions densément peuplées. Vont aimer entrer en relation avec d'autres personnes. Les gens qui sont moins ouverts vont préférer vivre plus à la campagne, avoir un cercle plus restreint. Et toutes ces données psychométriques se corrèlent avec plein d'autres éléments de leur vie. Alors, je dis pas nécessairement que les gens qui sont peu ouverts sont nécessairement plus enclins à être racistes, mais juste qu'il y a des déterminants de la personnalité qui amènent les gens à avoir des patterns comportementaux qui sont prévisibles. À petite échelle, les gens sont plutôt imprévisibles, mais à grande échelle, sur de grands nombres, c'est sûr qu'on va avoir... Tous les peuples ont leur part d'éléments indésirables par rapport aux normes socialement acceptables. Dans le cas du Canada, c'est quand même une des manifestations que la société dans son ensemble est justement pas raciste, c'est que ce genre de vidéo-là soulève l'indignation générale. Et personne ne sait d'où est-ce qu'ils sortent. On se dit, mais comment ça se fait? mais voilà un exemple, et c'est exactement le genre d'exercice que moi je les appelle. Il y a certains individus que je considère que c'est des victimes professionnelles. Ils sont là pour s'indigner puis ils font de l'argent avec ça. C'est rendu une industrie, l'indignation. L'indignation professionnelle. Oh, oui. C'est des gens qui font beaucoup d'argent avec cette histoire-là. Et puis ces gens-là font jamais l'exercice de nous dire précisément quelles sont les institutions qui sont racistes, quelles sont les lois qu'on doit combattre. Et précisément, on un peu comme l'empereur romain qui a demandé à son armée d'aller attaquer l'océan, on donne des coups d'épée dans l'eau bien souvent. Je comprends l'objectif, je comprends l'intention, mais le résultat, c'est que ça change rien, parce qu'on cible pas quelque chose de précis. Quand on parle de société, on parle de gouvernement, on parle de loi, on parle de valeurs communes. Puis, à ce moment, Je regarde le corpus législatif canadien et je ne vois pas quelles sont les lois qui devraient être abrogées pour régler le problème. Je les vois pas. On en avait ben, des lois comme ça. Il y en avait aux États-Unis. Puis, en fait, les lois de Jim Crow, c'était exactement ça. C'était des lois où le gouvernement contraignait les commerçants à avoir des pratiques ségrégationnistes basées sur la couleur de la peau. C'est une intervention de l'État qui était discriminatoire. Ça a été un exemple de loi abrogée qui a réglé un problème assez important.
Je suis d'accord. Ben, on parle d'il y a 55-60 ans.
Oui.
Ça fait pas si longtemps que ça. Il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui, qui ont vécu cette époque-là, autant du côté des Blancs que du côté des Noirs. Je pense pas que les mœurs d'une société se changent aussi rapidement que ça. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Mais je pense qu'il serait faux de dire que parce que nos lois sont peut-être pas nécessairement racistes, qu'il n'y a pas de progrès à faire. Moi, je pense que... Puis peut-être au Canada, moi, je pense qu'on est quand même un peu choyé de ce côté-là. Je pense qu'on a quand même beaucoup de liberté, puis c'est rare, là, les genres de bizarreries comme... qui se passe aux États-Unis, c'est comme on a entendu parler à un moment donné, puis encore, il y en a un qui s'en va vers la Cour suprême des États-Unis, tu sais, une boulangerie qui refuse de faire un gâteau pour un couple qui se marie, un couple gay qui se marie, puis là, ça se retrouve devant la Cour suprême du Canada. Je pense qu'on est chanceux au Canada, pas du Canada, des États-Unis. Je pense
on est beaucoup moins à base.
Ouais.
Ça limite le nombre d'événements comme cela en termes absolus. Mais on pourra en parler de ce que là, du gâteau. Je pense que ça fait une bonne conversation.
On va passer maintenant à notre chronique du commentaire de la semaine. Là, j'en ai sorti un. Écoute, quand je l'ai vu, j'ai ri. Ça arrive pas souvent, là, mais j'ai vraiment fait un LOL. J'ai laughed out loud. dans mon salon tout seul, parce que si tu passes tes commentaires, des fois c'est comme si tu es un peu blasé, là. Puis là j'en ai tombé sur un.
C'est que beaucoup font un peu du pareil au même.
Sur un article du Journal de Montréal qui parlait de justement la fameuse photo de la parade Saint-Jean. L'article s'intitulait « Raciste? Non. Stupide? Oui. » Et je cite Marc Tramoni. Si jamais, Marc, que tu entends ça, moi, je te dis bravo. Pour moi, tu as gagné l'Internet cette journée-là. Et le commentaire de Marc va comme suit. Donc, tout le monde a le droit de pousser des chars allégoriques, sauf les Noirs. Eh bien, ça, c'est du raciste. Moi, j'en ris encore quand j'y pense. Puis le moment, il y avait 75 likes sur son commentaire. Pas une seule face enragée. Déjà, ça en dit long. Fait que, félicitations, Marc Tramoni. T'as gagné l'Internet pour cette semaine sur Québec quoi.
Un mot de fermeture. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on traite les gens de la même façon, indépendamment de leur bagage génétique. Qu'on les traite vraiment de la même façon. Et ça implique aussi les traitements préférentiels. Moi, je vois rien de raciste en soi à ce que des jeunes d'une équipe de sport poussent un char.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Il n'y avait rien de ça qui, à mon avis, était la manifestation d'un racisme systémique dans la société.
Je ne pense pas que l'intention ici était négative. En fait, l'intention, c'était de donner une opportunité à une équipe défavorisée.
Oui, parce que... il faut le rappeler, cette école-là est parmi les plus pauvres dans la région.
Puis c'est de ce que j'ai compris, c'est une équipe où le coach et l'école, ils essayent vraiment de prendre en main ces jeunes-là.
Des impliqués dans la communauté.
Exactement, c'est la lutte au décrochage, tout ce que tu veux. Puis là, ils se retrouvent en plein milieu d'une controverse. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ces jeunes-là? On ne saura pas. Fait que sur ce... Merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous rappelle, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Suivez-nous, likez-nous, mettez-nous des faces qui rient puis des beaux petits cœurs. Likez, s'il vous plaît, partagez, cherchez pour Québec quoi. Nous sommes maintenant disponibles sur Google Play et iTunes. Alors, souscrivez à notre balot de diffusion. On va essayer d'en faire une par semaine. Puis après, peut-être plus, on verra. On ne sait pas, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on aime ça. Et vous pouvez nous écrire, nous donner vos commentaires. L'adresse, c'est québecquoibalado@gmail.com. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.